14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je me sentais réellement comme étant une sorte de soldat dans l'armée satanique. Et nous devions mettre à genoux la ville de New York pour installer le règne de la terreur. Ce fut une tragédie. Des vies innocentes furent perdues, ma vie ruinée, et la vie d'autres personnes ont été également ruinées.
Bonjour. Le fils de Sam, c'est comme cela que s'était baptisé David Berkowitz, l'homme qui fit trembler la ville de New York au milieu des années 70. La trajectoire d'un tueur en série psychopathe qui tuait des jeunes femmes aux cheveux longs et bruns. En un an, 8 agressions, 6 morts et 5 survivants qualifiés de miraculés par la police. Pendant des mois, David Berkowitz aura défié les autorités, les médias et le pays tout entier à travers une série de messages envoyés à la presse et au chef de la police de New York. Dans ses explications, il affirme être sous l'emprise des forces du mal qui lui dicte ses ordres. Dans cette heure du crime, nous allons voir quels personnages vont découvrir les enquêteurs après une traque inédite. À leur grande surprise, pas tout à fait un illuminé sanguinaire, mais une personnalité bien plus contrastée, au point qu'on se demande encore aujourd'hui si cet homme a agi seul. Mais au fait, pourquoi Berkowitz se ferait-il appeler le fils de Sam ? La réponse surprenante nous sera fournie par nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la course meurtrière de David Berkowitz, alias le fils de Sam. Il va falloir un an pour démasquer celui qui a plongé New York dans la psychose. Parcours sanglant qui démarre dans une quasi-indifférence au milieu de l'été 1976. Ce 29 juillet 1976, aux alentours de 1h10 du matin, Jody Valenti, 19 ans, infirmière, et Donna Loria, 18 ans, étudiante en médecine, discutent dans une voiture garée sur un parking du Bronx. Les deux amis ont passé la soirée au Peachtrees, une discothèque. Jody a ramené Donna chez elle au 2860 Burr Avenue. Donna sort de la voiture. Elle aperçoit aussitôt la silhouette d'un homme qui s'approche d'un pas rapide. Celui-ci sort un revolver d'un sac en papier et fait feu. Donna Loria est tuée sur le coup par une balle de calibre 44. Jody Valenti, restée au volant, est touchée à la cuisse par une deuxième balle. Elle pourra décrire vaguement le tueur. Un homme brun et trapu, la trentaine, environ 1m73 pour 85-90 kilos. La police est persuadée qu'il s'agit d'un contrat de la mafia italienne. Le meurtrier se serait trompé de cible. Trois mois plus tard, 23 octobre 1976, quartier du Queens, un couple dans une voiture est visé par des tirs. La conductrice est blessée par des éclats de verre. Le passager, 20 ans, Carl Denaro, est touché au crâne. Il survivra miraculeusement. À cause de ses cheveux très longs et bruns, le tireur l'a pris pour une femme. À chaque fois, un calibre 44 a été utilisé. La police de New York ne fait pas le rapprochement entre les deux affaires. Les lieux des crimes sont beaucoup trop éloignés les uns des autres. 27 novembre 76, peu après minuit, Donna De Masi, 16 ans, et Johan Lomino, 18 ans, étudiante au lycée Martin Van Buren dans le Queens, discutent sous un porche. Elles sont abordées par un homme qui cherche son chemin et dégaine aussitôt une arme. Les deux lycéennes sont blessées, Johan restera tétraplégique. La police ne relie toujours pas toutes ces affaires, même si à chaque fois c'est un homme seul, armé d'un calibre 44, ciblant de jeunes femmes aux cheveux longs et bruns, qui frappe. Le rapprochement va se faire deux mois plus tard, 30 janvier 77. Aux toutes premières heures du matin, un couple qui vient de voir le film Rocky au cinéma embarque dans sa voiture pour aller en discothèque. Il essuie alors plusieurs coups de feu. L'homme est légèrement blessé. Sa fiancée, Christine Freund, une secrétaire de 26 ans, est tuée sur le coup. Cette fois, les enquêteurs établissent formellement un lien entre toutes ces affaires. Les munitions retrouvées, bien que dégradées, ont été tirées par une même arme, un revolver 44 Bulldog, fabriqué par la marque Charters Arms. Les motivations du meurtrier demeurent obscures. Les femmes sont visées en priorité. Les femmes ne se connaissent pas. Seule la couleur de leurs cheveux pourrait alors apparaître comme un trait d'union. La police de New York sait qu'un tueur se promène en ville. Le 8 mars 77, une étudiante de l'université Columbia est retrouvée morte près de chez elle, dans le Queens. Elle a essayé de se protéger de son agresseur avec ses livres de classe, déchiquetés par les tirs. Les journaux commencent à évoquer la présence d'un psychopathe qui arpente les quartiers du Queens et du Bronx, un tueur de femmes. Le maire de New York fait de cette chasse à l'homme une priorité. Au mois d'avril, pas moins de 300 agents sont affectés à ce dossier prioritaire. Les patrouilles de nuit, notamment à la sortie des nightclubs et des cinémas, sont renforcées. Mais rien n'arrête la marche du tueur. 17 avril 77, un couple d'amoureux, lui 20 ans, elle 18 ans, ne survit pas à la fusillade. La série noire n'est pas terminée. Et voilà donc pour les premiers faits d'armes de celui qui va bientôt apparaître sous le nom du fils de Sam. On ne sait rien évidemment à cette heure-là de cet individu qui semble guetter des jeunes femmes et des couples. Et là-dessus, on va écouter notre premier invité, c'est Fabrice Dalméda. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes historien, auteur du livre « Serial Killer, à chaque époque son tueur » aux éditions de La Martinière. Je le disais, il y a ce climat très particulier qui commence à s'installer à New York. C'est une ville connue, mm-hmm. pour ses homicides, c'est une ville violente. Mais là, très vite, la psychose va s'installer.
Il y a une psychose d'autant plus grande que c'est une des premières fois qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on le sait. Il y a des meurtres de femmes, ça arrive. Mais à l'époque, on n'a pas du tout le même système policier qu'aujourd'hui. Mmh. Donc c'est une des premières fois où la presse commence à identifier l'idée qu'il y a quelqu'un qui tue un type de femme. C'est difficile de se remettre dans cette position de l'époque, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un serial killer en 1976. Ça n'existe pas.
Ah, c'est très important ce que vous dites. Très important, pas. Effectivement. Donc là, pour la première fois, on a l'impression de suivre quelqu'un à la trace.
Exactement.
Et qui commence d'ailleurs à s'amuser avec ses crimes. On a ce sentiment-là.
Exactement.
Et en tout cas, il y a une méthodologie qui est toujours identique, c'est ça ?
Voilà. Et c'est une des premières fois où il identifie qu'il y a quelqu'un qui cible les brunettes, les jeunes femmes brunes. Et donc d'ailleurs, ça va avoir un effet presque comique, puisque les gens vont se dire, est-ce qu'il faut que je reste brune ou est-ce qu'il faut que je me teigne les cheveux pour éviter d'être confronté au tueur. Donc c'est une des premières fois, et peut-être pour les États-Unis la fois où c'est le mieux identifié, le fait qu'il y a un ciblage, un certain type de profil qui fait que le tueur va agir. Mais les mots que j'emploie là ne sont pas les mots de l'époque. Le profiling en est à ses tout débuts. On n'utilise pratiquement pas l'expression. Donc c'est ça qui fait un climat particulier. Dans ce New York, on l'a oublié aujourd'hui parce que New York est devenue une ville relativement sûre, mais dans ce New York qui était un New York où la violence était omniprésente, où la délinquance était extrêmement dégradée et où il n'y avait pas les réponses budgétaires ni policières pour cela.
Bonjour Émilie Tibatz.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Merci beaucoup vous aussi d'être aujourd'hui en direct dans l'heure du crime. Vous êtes créatrice du site tueurensérie.org, auteur du livre Tueur en série aux éditions Amazon Media EU. On en parlait à l'instant avec Fabrice Dalméda de ce New York des années 70, qui va, dans la situation d'ailleurs de violence, va s'empirer dans les années qui vont suivre. C'est vrai, Émilie Tibatz, vous confirmez, à cette époque, New York, c'est pas forcément la ville la plus sûre du monde.
New York, surtout dans les années 70, New York est une ville où il y a beaucoup de problèmes de violence, beaucoup de problèmes de drogue, notamment. Et puis, il faut dire aussi, comme partout aux États-Unis, que les armes sont en vente libre. Donc, c'est le tueur tue avec une arme. Donc, n'importe qui peut se promener avec une arme et tuer. Effectivement, New York, dans les années 70, c'est une ville qui est dangereuse. Ça n'empêche pas les jeunes, surtout dans le quartier de Queens où le fils de Sam va beaucoup tuer, de sortir parce que voilà, c'est la fin des années 70, c'est le disco, on fait la fête, on va en boîte, on s'amuse. Ils n'ont peut-être pas tout à fait conscience aussi du danger que ça peut représenter, alors que effectivement New York est peut-être pas un coupe-gorge, mais une ville dangereuse, oui.
Alors Fabrice Dalméda, une ville où on s'amuse, le disco commence à arriver, je parlais du film Rocky, on est dans cette époque.
Hein, il y aura le Club 54 aussi qui ouvre la même année.
Andy Warhol, etc., avec toutes ces célébrités, donc il y a une jeunesse qui a envie de s'amuser. Un mot quand même sur cette époque que vous connaissez bien, Fabrice Dalméda, on sort des années 60 qui ont été sataniques, entre guillemets, hein, avec, je parle de Charles Manson, etc., on est après les hippies là, mais il y a toujours cette violence latente dans cette société américaine. américaine.
Oui, il y a la libération sexuelle, vous avez raison de le dire. Il y a eu effectivement l'affaire Manson qui a été un des crimes, justement avec des éléments, on y reviendra, hein, qui seront même reliés. On se demandera s'il n'y a pas un lien d'ailleurs.
Vous nous en parlerez.
Entre les deux. Mais c'est vrai que c'est une espèce de sentiment de liberté qu'on a bien décrite là, et une peur en même temps qui a reculé. On sort de la guerre du Vietnam, elle vient de finir. Donc pour les États-Unis, c'est un sentiment peut-être nouveau de, à la fois de liberté et peut-être de bonheur qui pourrait venir.
Émilie Tibatz, on revient un petit peu sur l'enquête. Il y a ce mode opératoire qui est similaire pour les meurtres. J'ai envie de dire, on a presque l'impression que c'est un rituel.
C'est-à-dire qu'il se préparait, il s'habillait en tenue militaire. Il a admis à demi-mot lui-même que parfois il mettait une perruque pour ne pas être reconnu. Il a utilisé toujours une arme qui était une arme de gros calibre, du 44. Souvent, il se mettait accroupi ou à genoux pour pouvoir viser. Il prenait son temps. Donc, il y a quelque chose effectivement de rituel pour pouvoir à chaque fois tuer ses victimes.
Le tireur, il est brun, parfois blond, selon les témoignages, ça varie, on verra que là aussi ça va poser certaines questions, savoir s'il est seul ou s'ils sont plusieurs. On n'arrive pas à avoir une description précise de cet homme finalement.
Effectivement, là, aussi bien la police que le maire de New York est persuadé qu'il y a plusieurs tueurs. Comme on le disait, en plus la ville de New York à l'époque était une ville dangereuse, donc les crimes par arme à feu n'étaient pas rares. Et puis, c'était loin d'être bête. Quand il a vu que pour les premiers crimes, des témoins avaient parlé d'un jeune homme un peu rondouillé, un peu brun, il a mis une perruque. Alors, il n'a pas dit qu'il avait mis une perruque blonde, mais on l'a su par la suite qu'effectivement, il avait mis une perruque blonde. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce genre de situation, c'est un phénomène qui est bien connu des psychologues et des psychiatres, c'est que quand un phénomène grave, un crime, quelque chose de choquant arrive, vous allez avoir autant de descriptions qu'il y a de témoins, malheureusement.
Ah oui, ça c'est un classique, effectivement, en matière criminelle, c'est-à-dire que là, déjà le témoignage visuel, il est complètement fragile et c'est compliqué. Fabrice Dalméda, là, Piolin, j'ai été quand même frappé à la lecture des papiers de l'époque, des articles du New York Times, etc., du Daily News, etc. Les victimes, les survivants, et il va y en avoir plusieurs, ont toujours du mal à le décrire, cet homme. On a l'impression que personne ne le voit. Il arrive, il s'en va.
Ben, il tire latéralement souvent, donc ils ne l'ont pas forcément au centre de leur champ de vision. Et puis par ailleurs, il est souvent, comme on l'a dit, il prend son temps, il est en position de tir. Il tire pour tuer hein, quand même, parce qu'on a dit qu'il y a des victimes qui survivent. Mais parmi les survivants, c'est des gens qui ont été blessés à la tête, c'est des gens qui ont été blessés à la mâchoire. Donc il visait la tête, quoi. Il voulait tuer. Et je pense que si... autant parfois il y a des accidents, autant lui, en fait, l'accident, c'est quand les gens survivent. Je pense qu'on y reviendra, mais dans le profil psychologique, pour lui, l'idée de tuer, de donner la mort, d'éliminer est cruciale dans son activité de serial killer.
Et dans le mode opératoire, il est aussi en position de supériorité. C'est-à-dire qu'il choisit des victimes qui sont assises dans une voiture, il arrive sur le côté, il tire. C'est bien ça, hein, c'est oui. Toujours ça. Il attend que les personnes soient installées.
Oui, c'est le moment où elles sont d'une certaine manière bloquées, paralysées sur leur siège. Voilà. Et je pense qu'il cherche aussi pour lui-même, en tout cas au début, il cherche une impunité. Je pense qu'il ne veut pas être attrapé. Mmh. On peut en discuter, hein, parce que quand il est arrêté, il dit « je voulais être arrêté ». Donc comme si c'était lui qui avait voulu devancer les
choses. C'est une réponse un peu classique souvent en matière de chez les criminels. Hein.
Voilà, il dit ça. Mais c'est vrai que souvent les serial killers, s'ils laissent des indices, souvent s'ils laissent des éléments et s'il a eu toute cette correspondance avec la police, c'est qu'il avait besoin aussi de ce soulagement-là.
Bien sûr.
Donc il y a ça. Mais je pense qu'au début, en tout cas, il ne voulait pas être attrapé. Il voulait juste se soulager et trouver, alors on peut discuter du terme, et trouver le plaisir qu'il avait dans la mise à mort des autres.
Et puis, qui plus est, avec une arme, Emily Tibatz le rappelait, c'est pas n'importe quoi, c'est un gros calibre. Hein, et voilà, c'est quelque chose qui est fait pour tuer, on ne plaisante pas.
Oui, hein, mais c'est un revolver qui ne permet pas de tirer à série, en fait. Il tire un coup, puis un coup. Donc, à la limite, la deuxième victime va entendre le coup de feu de la première et va savoir qu'elle est menacée. Ce qui fait qu'il y en a d'ailleurs certains qui réagissent, certains qui bougent, et qu'il peut avoir un deuxième tir moins précis.
Le tueur de femmes rôde toujours en ville, impossible de l'identifier en dépit des témoignages recoupés de ceux et celles qui ont survécu. Un homme qui aime apparemment faire parler de lui au point de se confier à la police et à un journal. Dans la voiture des deux dernières victimes en date, Valentina Suriani et Alexander Ezo, le couple d'amoureux qui n'a pas survécu au tir le 17 avril 77, les policiers ont trouvé une lettre anonyme rédigée en capitale. Elle est adressée au capitaine Joseph Borrelli de la police de New York et signée par ce sobriquet, le fils de Sam. Le tueur ironise sur les efforts infructueux des enquêteurs. Il affirme que son œuvre n'est pas achevée et qu'il va continuer à tuer. « Je suis profondément choqué qu'on me présente comme quelqu'un qui hait les femmes. C'est faux, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Quand Sam a trop bu, il m'entraîne derrière la maison, il m'enferme dans le garage. Sam adore boire du sang. Va-t'en et tue, commande le père Sam. » La lettre est une suite de provocations lancées aux policiers avec ces mots « Je reviendrai, je reviendrai ». Lettre cachée sans succès aux journaux qui vont vite faire des gorges chaudes de cet assassin que les psychiatres de la police décrivent comme un schizophrène paranoïde en proie à une possession démoniaque. 30 mai 1977, un éditorialiste en vue du journal New York Daily News reçoit une lettre manuscrite. Au dos de l'enveloppe figurent ces formules « Sans » et famille, obscurité et mort, totale dépravation. Le courrier, signé par le fils de Sam, évoque la première victime, Donna Loria, qu'il ne faut pas oublier, écrit-il avec un cynisme absolu. C'était une très, très gentille fille, mais Sam est un garçon assoiffé qui ne m'empêchera pas de tuer jusqu'à ce qu'il soit rassasié de sang. J'aime mon travail. Plus loin, le fils de Sam demande aux journalistes de transmettre quelques noms aux policiers, des personnages fantasmatiques qui guideraient ses gestes et animeraient ses pensées. Le duc de la mort, le méchant roi, les 22 disciples de l'enfer. Le 1er juin, le Daily News reçoit une seconde lettre aux connotations clairement satanistes. Le fils de Sam fait entendre qu'il répond au diable en personne. C'est lui qui lui demande d'accomplir sa sombre besogne. Pendant une semaine, le journal va publier bout après bout la lettre du tueur, près de 1 million d'exemplaires vendus. La psychose prend alors des proportions inouïes dans les rues de New York, le fils de Sam ne s'intéressant qu'aux jeunes femmes brunes. Les ventes de perruques blondes et rousses explosent. Le tueur a annoncé dans toutes ses lettres qu'il allait recommencer. Il tient parole. Le 26 juin, il tire sur un couple stationné sur un parking entouré d'arbres dans le Queens. Judy Placido, 17 ans, est touché d'une balle tirée dans la tempe droite. Son petit ami, Salvatore Lupo, est blessé au bras. Tous deux vont toutefois s'en sortir. Les policiers affectés à la chasse du fils de Sam, l'opération Omega, sont épaulés par 100 fonctionnaires supplémentaires.
Il faut préciser qu'à l'heure actuelle, toute la police new-yorkaise ratisse tous les quartiers de New York, de Bronx à Brooklyn, en passant par l'île de Manhattan. Toute la police new-yorkaise et plus de 300 détectives qui sont à la recherche du fils de Sam.
Mais rien à faire. L'assassin court toujours et frappe toujours. Le 31 juillet, dans un parc de Brooklyn, Robert Violante et sa fille Stacy Moskowitz et sa fiancée Stacy Moskowitz, tous deux âgés de 20 ans, flirtent dans une automobile. Leur premier rendez-vous d'amoureux. Des coups de feu claquent. Robert Violante est atteint au visage. Il perdra son œil gauche. Stacy Moskowitz est touchée deux fois à la tête. Elle mourra 38 heures plus tard à l'hôpital. Cette fois, le tueur a pris tous les risques. Il a agi sur un parking bien éclairé et fréquenté par d'autres couples. Des témoins ont clairement aperçu sa silhouette. Un individu qui s'est évanoui tranquillement sous les arbres après avoir commis son forfait. Quatre jours après cette huitième attaque, une résidente dit avoir vu un homme détacher un PV collé sur son pare-brise. Cet homme tenait un objet noir dans la main. La fusillade à quelques mètres de là a éclaté peu après. Et on va voir comment ce fameux PV, ce procès-verbal, va mener tout droit au fils de Sam et dévoiler sa véritable identité. On s'arrête pour l'instant sur ce moment important dans cette histoire, parce que là, il s'est à moitié dévoilé, le fils de Sam, c'est ce verbillage sataniste. Émilie Tibatz, créatrice du site tueurensérie.org, qu'est-ce qu'elles disent donc ces fameuses lettres ?
Alors, il y a deux lettres principalement. Une lettre qu'il a laissée sur une scène de crime qui est complètement halluciné. C'est la lettre où il parle du fils de Sam, c'est-à-dire du chien qui, soi-disant, lui envoie, qui est possédé par un démon et qui lui envoie des messages qui le poussent à tuer. Bon. Et puis, vous avez une deuxième lettre, et cette lettre, il l'envoie à un journaliste du Daily News. Et ce que je trouve intéressant dans cette deuxième lettre, c'est que on a vraiment plus l'impression qu'il dit ce qu'il pense. Il dit j'apprécie l'intérêt que vous avez pour les meurtres. J'aime ce que je fais. J'espère avoir l'occasion de pouvoir vous rencontrer pour vous raconter ce que je fais. Enfin, il est très fier en fait des meurtres qu'il commet. C'est une évidence.
Oui, effectivement, il est très fier de ses meurtres. On a presque l'impression, Émilie Tibatz, qu'il est avide de publicité. D'ailleurs, même s'il s'en défend.
Ah, totalement, totalement. Le fait de laisser, en plus, il voit bien qu'on parle beaucoup des crimes dans les journaux. Il sait très bien qu'en lisant ce genre de lettres, les lettres vont être publiées dans les journaux. Il va y avoir encore plus de publicité. Il en est très, très fier. C'est ce qu'il cherche.
Fabrice Dalméda, historien et aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, on revient tout de même sur ses écrits, ce verbiage. D'ailleurs, il faut bien dire que c'est très incompréhensible ce qui est raconté quand on les lit dans l'intégralité. C'est pas très mal écrit d'ailleurs, mais c'est pas très compréhensible. Encore une fois, je vous pose la question à vous. Ces lettres, qu'est-ce qu'elles expriment ?
Il y a une dimension de justification. Quand même, quand on regarde, par exemple, quand il dit « on m'accuse de ne pas aimer les femmes ». Moi j'aime l'humanité tout entière, je veux leur apporter en quelque sorte la vérité et je veux leur éviter un sort pire dans l'au-delà en arrêtant leur vie. Donc il y a quand même une forme de justification. Ce qui est compliqué, c'est quand on les resitue dans l'ensemble de l'histoire. Parce que quand elles arrivent, en fait, on se dit « Ok, on a affaire à un malade mental, un psychopathe. » D'ailleurs, il y a des profils psychiatriques qui sont établis à l'époque.
Très vite d'ailleurs. Hein. On ne le connaît pas, mais les psys, ils sont formels. Ça y est, c'est un fou, voilà, un malade.
Voilà, exactement. Tendance paranoïaque, tendance suicidaire, tendance... Ouais, bref, on multiplie les tendances. Mais ça, c'est quand on le regarde sur ce moment-là. Si on les replace dans la plus longue durée, lui a quand même dit, Berkowitz, qu'il avait inventé ces histoires d'une certaine manière pour se disculper. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, pour un tueur, aux États-Unis comme en Europe, quand on est déclaré fou, incapable, on ne peut pas être jugé. On n'est plus responsable de ses crimes.
Oui, mais ça supposerait alors un calcul de tuer et de calculer.
Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend du moment où on les regarde. Parce que Berkowitz va revenir à plusieurs reprises sur cette question de l'invention du démon ou pas. Or, il en parle dans les lettres. Il est dans cette logique-là. Donc, s'il dit qu'il les a inventés pour, en quelque sorte, noyer le poisson et se déresponsabiliser, ben, ça veut dire qu'il y pensait au moment où il faisait les meurtres. Donc, ça veut dire que non seulement il n'était pas débile, mais qu'en plus, il avait une stratégie juridique.
Alors, il y a des écrits assez précis, il y a des références, hein, etc., qui sont très ésotériques, difficiles à savoir.
Avec même de l'anglais écossais, dont on se demande si ça renvoie à certaines œuvres,
etc. Tout à fait, exact. Ouais. Et les policiers vont se dire, d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui sait parler écossais, ils vont s'interroger à savoir si ce ne serait pas effectivement un écossais qui frappe. Il y a cette dimension sataniste, on parlait tout à l'heure de Charles Manson. Elle existe encore dans la jeunesse, cette dimension. C'est quelque chose qui est assez puissant avec ces sectes qui naissent à droite à gauche à cette époque.
Oui, on pourrait presque dire qu'il y a une mode en fait sectaire et qu'il y a une mode sectaire diabolique en quelque sorte. Ça a continué dans les années 80-90 avec le mouvement gothique qui aussi faisait ses références inversées. Dans les années 70, ce qui est très frappant, c'est que comme il y a une espèce de mouvement spirituel qui va avec le mouvement hippie, on prend le satanisme au fond comme la possibilité d'une religion des égaux. Donc, qui serait le contraire du christianisme, qui est une religion de l'inégalité. Je dis ça, c'est pas moi qui fais ce jugement. Hein. Ce sont ceux qui s'en réclament et qui disent qu'en fait, le diable en fait met tout le monde d'accord, puisqu'en fait, nous sommes tous faillibles, nous avons tous des défauts, nous avons tous, en quelque sorte, des perversités, des perversions. Donc, c'est pour ça que ce mouvement-là a une certaine sympathie, une certaine aura à l'époque. Bon, alors évidemment, là, on a affaire, j'allais dire, à la pointe extrême. Du satanisme qui n'est pas du tout une vision spirituelle, mais qui est au fond l'idée de la possession criminelle.
Oui, c'est le pouvoir de donner la mort et pour d'ailleurs sauver les âmes, c'est ce qu'il explique. Tout ça est un peu évidemment très embrouillé et très embrumé.
Et c'est la religion des rejetés au fond, c'est comme ça qu'il faudrait le prendre.
Mais on va voir, on va,
comme ça que Manson le présente à tous les paumés qui l'entourent.
Tout à fait. Et on va voir qu'effectivement, Berkowitz, à sa manière, c'est un paumé. Mmh. Et un paumé vraiment de premier plan. Encore une question, Fabrice d'Almeida. Cet homme qu'on ne connaît pas à ce moment-là, il est grisé, il prend des risques et c'est comme toujours, les criminels...
Est-ce qu'il est grisé ou est-ce qu'il est, j'allais dire, soumis à sa pulsion? Parce que là où c'est intéressant, c'est que la théorie du serial killer qui émerge à cette époque-là va justement intégrer le fait que les serial killers ont toujours, après leur crime, un temps de, en quelque sorte, de jouissance. Et qu'ensuite, petit à petit, la pulsion revient de plus en plus forte et qu'elle revient en général de plus en plus fréquente. C'est ce qui fait que souvent, les intervalles de temps entre les crimes vont se réduire. Et on a un petit peu l'impression, en regardant le cas Berkowitz, que ce modèle-là fonctionne. Et s'il fonctionne, c'est en partie parce qu'il a été construit sur le modèle Berkowitz.
Oui, mais il est très content aussi de s'adresser aux policiers et de leur dire « Mais vous faites quoi ? Vous n'arrivez pas à me trouver, etc. »
Au sens grisé de sa surpuissance.
« Vous me retrouverez, je continuerai à frapper. » Il joue beaucoup ça avec le responsable de la police, dont il a le nom d'ailleurs, et il lui écrit directement.
Effectivement, il y a la toute-puissance, mais quand même, s'il va vers le crime, c'est pas seulement pour la publicité, c'est parce qu'il y a la pulsion, il y a le désir. Il faut pas oublier que même si lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il ressent au moment où il tue, dans le modèle, en fait, c'est ça qu'il recherche.
La jeune secrétaire Stacy Moskowitz va être la dernière victime du fils de Sam. En quelques jours, les policiers new-yorkais vont parvenir à s'approcher de cet individu qui les défie depuis un an. Les enquêteurs s'intéressent à toutes les voitures verbalisées au soir du 31 juillet, près du parc où Stacy Moskowitz a été tuée à bout portant et son fiancé grièvement blessé. L'une d'elles, une Ford Galaxy jaune, appartient au dénommé David Berkowitz, 24 ans. C'est un modeste postier. Il habite le quartier populaire des Yonkers, au nord de Manhattan. La police locale le soupçonne de quelques méfaits, agressions et cambriolages. Il a acquis un an auparavant un revolver calibre 44 au Texas. Le 10 août, la police débarque chez Berkowitz au 35 Pine Street. Ils l'attendent discrètement près de sa voiture dans laquelle ils ont aperçu un revolver sur la banquette arrière, des munitions, ainsi qu'une lettre adressée à un responsable policier. À peine a-t-il rejoint le véhicule que Berkowitz est mis en joue par un inspecteur. L'homme ne montre aucune résistance. Il lève les bras. « Je suis Sam », dit-il au policier. David Berkowitz, abandonné dès son plus jeune âge par sa mère, est un enfant adopté. Enfance chaotique, voleur convulsif et pyromane. À 17 ans, il s'engage dans l'armée, en Corée, avant de quitter l'uniforme 3 ans plus tard. Il semble depuis toujours dans l'incapacité de s'adresser aux femmes. Il dit avoir agressé au couteau une première femme en 1975. Il reconnaît les agressions, indique avoir été sous une emprise démoniaque. Il raconte qu'il était sous l'influence de son voisin, Sam Carr, qui possède un labrador noir baptisé Harvey. C'est ce chien qui lui aurait transmis les ordres diaboliques, le poussant à tuer des femmes pour assouvir une soif de sang. Un homme vieux de 6000 ans, raconte-t-il, lui parlait à travers cet animal. Berkowitz confesse qu'il était dans la main du diable. Dans son appartement, les policiers vont découvrir des graffitis sataniques sur les murs, ainsi qu'un journal dans lequel il relate ses activités criminelles et maléfiques, parmi lesquelles tous les feux et incendies qu'il a allumés ces 3 dernières années. Berkowitz répond à toutes les questions. Il est fier de son œuvre. Et on verra si Berkowitz, le postier, a été vraiment seul pour commettre ces crimes ou bien s'il était accompagné. On va s'arrêter tout de suite sur cette arrestation qui est très importante parce qu'après un an de terreur, New York va commencer à respirer, à souffler. Coup de chance, j'ai envie de dire, Émilie Tibatz, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, coup de chance de la police. Sinon, eh bien, Berkowitz aurait continué à tuer encore et encore.
Il se pensait sans doute intouchable. Le fait de tuer ces gens de lui donner un sentiment de toute puissance. Et c'est quand même, il faut bien l'admettre, un coup de bol. Après, quand les policiers ont obtenu cette plaque d'immatriculation et ont su que c'était David Berkowitz, ils ont appelé les policiers de Yonkers, là où David Berkowitz habitait. Et les policiers de Yonkers leur ont répondu « Ouh là là, David Berkowitz, ah bah, ça ne nous étonnerait pas que ce soit le fils de Sam. Ouais. C'est un type vachement bizarre. » On le soupçonne d'avoir fait énormément d'incendies criminels. Il est agressif, il se dispute avec ses voisins, il est vraiment chelou. Si vous le soupçonnez, ça ne nous étonne pas. Donc, peut-être qu'un jour, il aurait fini par être soupçonné. Mais cette histoire de bébé, c'est quand même un sacré et un super coup de bol.
Un coup de chance. Et effectivement, Fabrice d'Almeida, historien et l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, incroyable. Alors là, il faut que vous nous racontiez un petit peu, parce que cette histoire de chien, ce fameux labrador qui donne des ordres à Berkowitz, on a l'impression de le voir aboyer et lui dire « va tuer des femmes ». Voilà, c'est ce qu'il raconte, lui,
oui,
au policier.
C'est pas le chat du rabbin, c'est le chien du tueur.
Ah,
vous vous souvenez
joli,
cette bande dessinée
joli, oui, tout
de
à fait.
Hansard,
tout
où
à
il y a
fait.
Un chat qui oui. parle comme oui. ça et qui...
Magnifique bande dessinée,
voilà.
d'ailleurs.
Et, alors, là encore, c'est toujours pareil, c'est que Berkowitz fait cette confession, il reviendra dessus plus tard, en disant...
Trois ans plus tard.
Voilà, bon, en fait, j'ai un peu baratiné. Si vous me permettez, avant
Allez-y.
De continuer là-dessus, juste sur le travail de police, faut quand même dire que c'est un coup de chance, mais c'est un coup de chance dans un ensemble systématique. Vous avez rappelé tout à l'heure, Jean-Alphonse Richard, qu'il y a plus de 300 détectives
c'est
qui
vrai.
Sont détachés sur cette enquête. Et d'une certaine manière, ils vont mettre en place les éléments qu'aujourd'hui, on utiliserait pour, comme vous savez, on appelle ça l'analyse de données.
Mm-hmm.
Et donc, le PV pour eux, ensuite, ils vont rentrer dans un travail pour rechercher toutes les voitures qui ont pu recevoir un PV dans la zone, ensuite isoler celles qui étaient... Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à la voiture jaune et qu'ils vont arriver à Berkowitz. Donc c'est quand même un vrai travail de police qui a été mené, qui aujourd'hui serait sans doute accéléré par les techniques de dossier,
informatique.
Exactement, informatique, par les alertes, par le traitement de la donnée dont on dispose aujourd'hui de manière un peu plus fine. Mmh. Donc c'est intéressant de voir que c'est aussi une arrestation dans son époque. Je reviens sur le chien.
Ah, alors allez-y, parce que moi je suis fasciné
parce
par cette histoire de chien.
Voilà, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye à chaque fois de trouver les vecteurs dans son entourage qui pourraient crédibiliser quelque chose d'extérieur. Sam, c'est son voisin. Le chien du voisin lui parle. Et après, ce qu'il y a d'assez frappant, c'est qu'on voit qu'il remet en cause ses propres croyances, puisqu'il dira, au fond, j'ai fait ça, c'était un peu prétextuel, c'était un peu pour chercher une excuse. Moi, je crois quand même qu'il avait un fond de complexe qui le poussait, d'ailleurs, je vais m'appuyer sur l'expertise, puisqu'il se trouve qu'il va y avoir une vraie expertise médico-légale, hein, psychopathologique, qui va être menée par le professeur David Abrahamsen, donc qui est un expert médico-légal de New York, et c'est lui qui va conduire le rapport pour savoir si on doit ou non juger David Berkowitz. Et lui dit qu'en fait, il est englué dans ses propres croyances. Il dit, bien sûr, il y a des complexes psychologiques, bien sûr, il y a un complexe d'abandon, etc., etc. Mais il est quand même intimement persuadé par ce qu'il dit. Donc Abrahamsen le juge apte à être jugé parce qu'il dit, en fait, il n'y a pas de cas de possession. Il distingue très bien ce qu'est le bien et le mal. Et d'une certaine manière, pour Abrahamsen, le fait qu'il se serve du prétexte satanique montre qu'il savait très bien distinguer le bien et le mal, qui est le critère clé pour pouvoir être jugé aux États-Unis.
Les psychiatres vont effectivement déclarer qu'en dépit des apparences, David Berkowitz, alias le fils de Sam, n'est atteint d'aucun trouble grave. Il est apte à être jugé par un tribunal. Ce 8 mai 78, David Berkowitz fait face aux juges et aux jurés du tribunal criminel de New York. Trois expertises médicales l'ont déclaré apte à comparaître. Ses avocats l'ont incité à se déclarer non coupable en invoquant la folie, mais il a refusé. Les audiences se déroulent sans encombre. Le fils de Sam reconnaît un à un les assassinats qui lui sont imputés. Il indique avoir été en quelque sorte téléguidé par le démon. Il ne va craquer qu'une seule fois, peu avant le verdict. Il tente alors d'ouvrir une fenêtre du 7e étage, il hurle que Stassi Moskowitz, sa dernière victime, était une traînée. « Je la tuerai encore, je les tuerai toutes encore », hurle-t-il. Le 12 juin, Berkowitz est condamné à un total de 315 années de prison. La peine de mort est abolie dans l'État de New York. Il pourra demander une sortie anticipée dans 30 ans. Il est écroué à la prison d'Attica. Trois ans plus tard, Berkowitz certifie que l'histoire du chien qui lui transmettait des ondes démoniaques était une pure invention. Mais il maintient les accusations contre la famille qui habitait près de chez lui, les frères John et Michael Carr, et leur père Sam Carr, le fameux Sam, propriétaire du Labrador, une famille satanique qu'il aurait recruté. Sam Carr est présenté comme le plus haut gradé de cette armée du diable. Les frères Carr mourront tous deux de mort violente après l'arrestation du du fils de Sam. Une fusillade pour l'un, un accident de voiture pour l'autre. Le chiffre 666, le chiffre du diable, sera retrouvé tatoué sur une main de l'un des frères. Aucun membre de la famille Carr n'a jamais été interrogé dans cette enquête. Étonnant, Fabrice d'Almeida, tout de même ces révélations qui n'en sont peut-être pas, mais sur la famille Carr qui habite juste à côté. On est dans le même pâté de maison. Ils ne seront jamais interrogés. Pourtant, il a vraiment dit que c'était eux qui l'avaient influencé.
Oui, il est vraisemblable d'ailleurs qu'il était en conflit avec eux, parce que si lui était un peu instable, hurleur, agité, eux aussi étaient des délinquants. Et d'ailleurs, vous avez évoqué leur fin à tous les deux, l'un qui meurt en accident de voiture, l'autre.
Et très vite après l'arrestation.
Exactement. C'est ce qui fait qu'il peut justement. Parce que c'est pratiquement un an après, il est arrêté en 77, c'est en 78 que les deux frères meurent, et donc lui va faire ses révélations en 79-80. Donc il se sert du fait qu'ils sont morts aussi pour leur faire porter le chapeau. Mais il est précis, et c'est ça qui va troubler un certain nombre d'acteurs du dossier, c'est qu'il dit l'un des frères a effectué un meurtre sur un des couples, et l'autre frère, donc Michael et John, ont chacun fait une des deux fusillades, ce qui fait que lui, en fait, n'en reconnaîtrait qu'une.
Il va dire une, puis il va dire deux.
En réalité, la justice new-yorkaise ne l'a pas suivi. Elle l'avait déjà condamné. Mmh. Les policiers, à l'époque, ont considéré qu'il n'y avait pas lieu. Et là où il est relativement soupçonné d'avoir été un peu prétextuel, c'est qu'au même moment, il prépare un film et un livre sur son histoire. Et donc, cette question-là fait qu'on se demande si ce n'est pas pour la promotion.
À ce point-là, donc encore un calcul.
Parce qu'il est en train de négocier ses droits, en fait, avec une des très grandes maisons d'édition new-yorkaises. C'est un chiffre d'ailleurs considérable, hein, c'est un quart de million de dollars qui est en train de négocier, dont lui toucherait normalement un tiers, l'auteur toucherait un tiers, et son agent toucherait un tiers pour un trust. Ce qui est drôle, vous me direz, ça fait rire jaune, c'est qu'il dit qu'il veut faire cela pour pouvoir ensuite verser de l'argent aux victimes. Ouais. Ça ne va pas être anodin, ça ne va pas être innocent, puisque c'est sur ce cas-là que pour la première fois, on va adopter une loi dans l'État de New York pour éviter que les livres et les bénéfices des crimes puissent profiter aux tueurs.
C'est ça, ouais.
Ce qui n'empêchera pas David Abramson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, son...
Le psychiatre, c'est ça ?
Le psychiatre qui continue à le voir, en fait. En prison.
Encore aujourd'hui, oui.
Non, ils sont morts.
Lui, non.
Abramson est mort à 98
Berkowitz
ans.
Berkowitz, il vit
années.
Toujours. Hein.
Non, Abramson est mort il y a quelques années. Berkowitz est toujours vivant. Mais il le continue à le voir encore au début des années 80. Et Abramson sortira un livre intitulé Les Confessions du fils de Sam en 85.
Emily Tibbatt, créatrice du site tueurensérie.org, on a l'impression que c'est un accusé à ce procès. Il n'y aura pas de procès en appel d'ailleurs. Un accusé qui est résigné, il est prêt à payer sa dette, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est que dès son arrestation, en fait, il va dire aux policiers « Oui, c'est moi qui les ai tués. Un tel, je l'ai tué comme ça. Un tel, je lui ai tiré dessus. Alors, celle-là, elle est morte, celle-là, elle n'est pas morte. » Il va donner des détails. Et il va dire « Je ne suis même pas sûr d'avoir besoin d'un avocat parce que, de toute façon, pendant mon jugement, je vais plaider coupable. » Et effectivement, ses avocats vont lui dire « Non, on va parler de tout ce qui s'est passé, les lettres que vous avez envoyées. Vous pouvez essayer de plaider non coupable pour cause de maladie mentale. » Et lui va dire « Non, ça ne m'intéresse pas, je plaide coupable. » Et effectivement, il est résigné. Dernièrement, au milieu des années 2010, par exemple, il a appelé les journalistes pour dire qu'il avait trouvé Jésus, qu'il était devenu un bon chrétien, qu'il regrettait énormément ce qu'il avait fait, et qu'effectivement, il ne fallait pas le libérer parce que peut-être qu'il recommencerait, et que de toute façon, en prison, il était très bien.
Oui, alors on va revenir effectivement à la « rédemption » entre guillemets de Berkowitz. Et encore là, on a beaucoup de choses à dire, mais... Lors de ce procès, on va évidemment évoquer, brièvement aux États-Unis, c'est toujours très bref, mais on va évoquer son parcours familial, cette enfance un petit peu en morceaux, en mille morceaux. Et puis il y a aussi cette expérience, mauvaise expérience à l'armée dans laquelle il s'est engagé, Emily Tibbatt.
Bon, après, il s'est engagé dans l'armée en pensant qu'il allait trouver... Alors peut-être une grande fraternité, des grandes amitiés, alors qu'en réalité, dans l'armée, il a eu plusieurs fois des blâmes, si je puis dire, parce qu'il s'est disputé avec des camarades, parce qu'il a volé des choses, parce qu'il a il aimait beaucoup. Alors c'était quelqu'un qui était un incendiaire, vraiment, il aimait beaucoup mettre le feu. D'ailleurs, dans son appartement, les policiers ont retrouvé des petits carnets où il avait noté tous les feux qu'il avait allumés depuis son premier. Il y en avait plus de 1400. énorme. L'armée, effectivement, alors il s'en est sorti quand même avec les honneurs quand il est parti, mais il n'y a pas trouvé ce qu'il cherchait et ça s'est pas très bien passé pour lui à l'armée, non.
Alors, Fabrice d'Almeida, c'est le démon qui agite Berkowitz, ou bien c'est cette haine des femmes, il faut le dire comme ça, parce que avec les femmes, ça va pas du tout, David Berkowitz.
Haine des femmes, frustration, grande frustration, misère sexuelle, ou alors même que, d'ailleurs il s'attaque à des couples, hein, alors même qu'on est dans la période de la libération sexuelle, lui il traverse
tout seul.
Il vit une misère, il a une grande instabilité de caractère. Alors, beaucoup, on a tendance beaucoup sur les serial killers à regarder justement les conditions familiales et le fait que c'est été un enfant adopté. Pourtant il n'a pas été maltraité par ses parents, comme c'est arrivé parfois pour d'autres tueurs en série de manière aussi. D'ailleurs, son père va continuer, son père adoptif, hein, va continuer à entretenir des relations avec lui. Donc c'est vrai que c'est pas exactement le modèle. On voit bien une personnalité déphasée, un peu explosive, mais on n'a pas le même côté je tue plein de petits animaux qu'on peut avoir chez d'autres tueurs en série.
David Berkowitz est parti pour de très longues années de prison, un séjour qui va être l'occasion d'une longue réhabilitation, d'une rédemption, dira-t-il, au point de ne plus vouloir quitter sa cellule. David Berkowitz, 68 ans, est un détenu modèle du Sullivan Correctional Facility, la prison de haute sécurité de Wolfsburg. Il a déjà bénéficié à 16 reprises de la possibilité d'être libéré sur parole, mais a toujours refusé de saisir cette opportunité. En 2002, il s'adresse ainsi à l'administration pénitentiaire. « Je crois que mon devoir est de rester en prison jusqu'à la fin de mes jours. J'ai, avec l'aide de Dieu, fait la paix avec moi-même. » À Wolfsburg, David Berkowitz, qui a rejoint l'église évangélique, s'occupe de la chapelle, assiste les prisonniers souffrant de troubles psychiatriques, fait des lectures de la Bible et poursuit ses études. Un détenu modèle, dit son avocat. Lors d'une audience pour une libération qu'il allait refuser, le fils de Sam avait exprimé sa compassion pour les victimes. « Ce fut malheureusement une terrible tragédie. Je regrette de tout mon cœur ce que j'ai fait. C'était une époque où ma vie était hors contrôle. Je donnerais tout pour revenir en arrière et changer tout ça. Mais revenir en arrière et changer tout ça, c'est impossible. » Tous les deux ans, il sera proposé ainsi à David Berkowitz de retrouver la liberté. Il a toujours considéré qu'il serait indigne de sortir. Lors du procès, le frère d'une victime lui avait promis qu'il finirait dans les flammes de l'enfer. Émilie Tibatz, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, je le disais, Berkowitz est un détenu modèle, il ne fait pas parler de lui, il donne des interviews d'ailleurs de temps à autre, c'est arrivé. Il a changé beaucoup physiquement, mais c'est normal après autant d'années en prison. C'est un détenu modèle, à quoi est-ce qu'il ressemble ?
C'est devenu modèle, il a jamais causé le moindre problème. Après c'est quelqu'un comme un peu Kemper. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait être violent envers les autres, mais qui a peur qu'on soit violent envers lui. Et donc, il a toujours fait profil bas, bien gentil. En fait, la première prison dans laquelle il a été à Attica, c'était une prison de sécurité maximum avec des prisonniers extrêmement dangereux. D'ailleurs, il a été agressé, il avait une cinquantaine de points de suture, il a failli mourir. Et peu à peu, comme il était très sage, on l'a mis peu à peu dans des prisons de moins en moins dures, avec des détenus de moins en moins dangereux. Et je pense que c'est ce qu'il cherchait, parce que c'est quelqu'un qui a peur qu'on soit violent envers lui-même.
Ah, ça, c'est intéressant, parce que cette espèce de fragilité derrière le masque impitoyable du tueur en série, c'est quand même tout à fait étonnant. Fabrice d'Almeida, historien, est dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Il y a cette conversion religieuse, cette espèce de christianisme exacerbé qui s'empare du fils de Sam. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Comment ça s'est produit tout ça ?
En 1987, il décide de se convertir. Il est ce qu'on appelle newborn. Hein. Il va devenir un chrétien évangélique. Ça peut permettre de dire, en tout cas lui le présente comme ça, qu'il vit une espèce de retournement. Il disait qu'auparavant il était le son of God. Le son of Sam, maintenant il sera le son of God, le fils de Dieu.
Le fils de Sam et le fils de Dieu.
Voilà, et donc au fond, c'est comme si tout d'un coup, il se disait qu'il devait rentrer dans une espèce de voie de rédemption. À la même époque, un petit peu plus tôt en fait, on commence à avoir des vraies réflexions sur ce que sont les serial killers. Vous vous souvenez, il y a cette unité spéciale du FBI, la Behavioral Science Unit, qui est créée à partir de 1976.
Qui était précurseur en la matière. Voilà.
Et parmi les enquêteurs, il y a ce fameux John E. Douglas. Et Douglas rencontre à plusieurs reprises Berkowitz, et lui est convaincu qu'en réalité, il a agi seul. Que c'est quelqu'un qui s'est un peu joué de la justice américaine et qu'au fond c'est un tueur qui a une personnalité assez classique par rapport
assez
aux autres.
Assez basique, voilà. Finalement.
Il a rencontré Kemper d'ailleurs, hein, Douglas, c'est assez marrant. Et donc son analyse, c'est qu'au fond on a affaire à une forme de retournement de caractère de celui qui était le tueur et qui tout d'un coup voudrait se faire passer pour le saint. Sachant que il a même dit, notre cher Berkowitz, qu'il pensait mourir en martyr. Alors, je m'explique. Dans les interviews qu'il donne autour de 79-80, il dit qu'il est persuadé qu'il mourra tué par un détenu qui voudra se faire un nom sur sa mort. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est tellement important, qu'il est tellement célèbre, que si un prisonnier l'avait tué, il serait instantanément devenu une star.
Alors c'est passionnant et c'est effrayant à la fois, mais c'est un fil rouge dans la ville de Berkowitz, parce qu'on a l'impression que c'est un mythomane quand même de A à Z. S'il a inventé ces histoires de démons, de diables, etc., on n'en est pas sûr quand même. Hein. Il y a toujours des doutes là-dessus aujourd'hui. Hein.
Oui, mais c'est l'inverse de sa conversion religieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tellement pris par son mensonge satanique, par sa croyance satanique. Il écrit quand même ça chez lui, hein, faut pas l'oublier. Il est dans un milieu relativement défavorisé où cette idée-là est présente. L'idée que le diable puisse être présente n'est pas... D'ailleurs, quand on a parlé de la famille Carr avait aussi un petit côté on va défier en se mettant un petit tatouage sur 666, le chiffre diabolique. Donc il y avait quand même ça dans le milieu qui était autour de lui. Donc il avait une forme de petite croyance, sachant que Berkowitz n'était pas catholique, n'était pas religieux. N'était,
pas du tout. Donc,
voilà, il n'était même pas juif dans sa démarche. Donc sa conversion, c'est plus une conversion de quelqu'un qui était un peu à côté de la plaque, qui ne savait pas trop où il en était par rapport à sa foi, si on veut utiliser ce concept.
Un dernier mot, c'est une affaire qui a marqué pas seulement la ville de New York, mais vraiment les esprits. Vous le dites, c'est un tournant hein, dans l'histoire des serial killers.
Ouais.
Berkowitz, ça marque une bascule, parce que les policiers ne vont plus travailler de la même manière.
Ben, grâce au travail de la BSU, hein, du FBI, on va enfin se dire, il y a un type de tueur particulier, des jeunes gens blancs, j'insiste là-dessus, qui tuent gratuitement. Et ça va permettre de développer toute notre analyse des tueurs en série.
Un grand merci Fabrice Dalméda et Émilie Tibatz d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était évidemment à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.